Donc bienvenue à ce discours, premier discours sur le thème de l'impermanence. Et avant d'aborder directement le thème de l'impermanence, qui est en fait un thème assez précis, qui s'imbrique dans un vaste paysage en fait du grand projet du Bouddha, hein, c'est un thème très spécifiquement bouddhiste. Eh bien, j'aimerais bien justement reprendre le grand cadre en fait, le grand projet qui quelque part quand on s'engage et qu'on focus sur un thème vraiment spécifique, et il peut y en avoir plein des thèmes spécifiques, ça pourrait être une retraite sur la vacuité, ça pourrait être une retraite sur la bienveillance ou l'interdépendance, tout ça, en fait, ce sont tous des endroits d'un grand et même tableau, c'est la même peinture. Et je pense que c'est important qu'on ait un regard de loin à tout le tableau, avant de plonger dedans et de savoir qu'en fait, on va dans une zone d'un tableau qui est bien plus vaste. Parce que par exemple, quand on va parler du thème de la permanence, on ne va pas spécialement parler de bienveillance. Ça viendra peut-être, et il y a un lien clair entre la permanence et la bienveillance, mais ce n'est pas forcément quelque chose on ne peut pas explorer tous les endroits du tableau en même temps. Et parfois, ça peut sonner comme, ah oui, bah, à ce moment-là, si on prend ce type d'enseignement pour quelque chose comme si c'était la totalité, bon, je dis oui, mais non, mais il manque quand même des choses. Il manque l'engagement au monde, il peut manquer en fait plein d'éléments qu'on n'a juste pas le temps d'explorer parce qu'on va en précision dans un endroit du tableau. Mais il faut savoir qu'on est dans un endroit d'un tableau qui est beaucoup plus vaste. Quel est ce tableau? Si on reprend dans la vision du Bouddha, en fait, la manière dont il l'exprime, pour lui, c'est. Ça commence, la base, la fondation de tout le bouddhisme, c'est les quatre nobles vérités. Donc c'est toujours de là qu'il faut repartir. Les quatre nobles vérités, c'est dukkha. Dukkha, c'est souvent traduit comme la souffrance. Moi, je préfère l'insatisfaction. Voilà. Parfois, je vais utiliser le terme souffrance et insatisfaction, mais je préfère insatisfaction parce que souffrance, c'est tout de suite très dramatique. Alors qu'en fait, le Bouddha, ce qu'il voulait parler, c'était la moindre résistance par rapport aux choses telles qu'elles sont, est une souffrance. Et alors quand on dit souffrance, nous, tout de suite, ça fait très dramatique et on va penser aux grandes souffrances de notre vie, aux grandes souffrances qu'il y a dans le monde. Tandis que si on parle d'insatisfaction, ça parle beaucoup plus en fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est des petits moments où il y a quelque chose à l'intérieur qui n'est pas tout à fait OK avec les choses telles qu'elles sont. Donc, dukkha, la première réalisation du Bouddha, c'est dire, voilà, il y a insatisfaction. Tout le monde connaît l'insatisfaction. C'est une expérience quotidienne, c'est une expérience constante, en fait, que l'insatisfaction. Et même si on a une vie très, très satisfaisante, si on regarde en détail, il y a plein de moments où on sent que c'est super, mais où il y a un petit truc qui est toujours au moins en décalage. Quelle est la raison de ça? C'est la deuxième des quatre nobles vérités. Tout ça correspond à des discours, c'est les causes. Quelle est la cause de la satisfaction? Comment se fait-il que l'humain vive avec une insatisfaction permanente? Et de nouveau, ne le prenez pas comme un, mais non, moi je suis quelqu'un quand même d'assez satisfait. Oui, ok. Mais quand on regarde dans le détail, il y a toujours, toujours, à tout moment de notre quotidien, une légère insatisfaction, une légère tension, ou grosse, hein, parfois, insatisfaction, attention, mais au moins toujours la présence d'une certaine insatisfaction qu'on ne remarque pas parce qu'elle est habituelle, elle est tout le temps là en fait. Ne serait-ce que déjà de quelque part savoir qu'un jour on va mourir, déjà, alors ce n'est pas quelque chose qu'on a tout le temps en tête, mais déjà créer une manière d'être en relation avec tout ce qu'on vit. Donc, quelles sont les causes de la souffrance? Ça, c'est la deuxième des quatre nobles vérités. Et la troisième, c'est la cessation de la souffrance, la possibilité, en fait, que cette insatisfaction cesse. Et c'est ça la grande découverte du Bouddha. C'est un jour, il est arrivé, après toutes ses méditations et tous ses exercices spirituels, il est arrivé, il a dit, ben, en fait, j'ai trouvé la cessation de la satisfaction. La satisfaction ne fait plus partie de ma réalité. Et c'est ça qu'il a enseigné. Et il l'a dit tout au long de sa carrière, quand même plus 50 ans, 45 ans, je pense, il a enseigné. Là, on a de la chance, on a 45 ans d'enseignement. Et Jésus, 3 ans. C'est court. C'était profond, mais c'est court. 45 ans, J'en ai eu la chance qu'il n'a pas été crucifié, le Bouddha. On a eu cette chance. Donc en fait, pendant 45 ans, en fait, il a dit, je n'ai enseigné qu'une seule et même chose tout le temps. Dukkha et la cessation de dukkha. La souffrance et la cessation de la souffrance. Donc la troisième des quatre nobles vérités, c'est la possibilité en fait que cette insatisfaction cesse. Et nous, même si on est très très ambitieux, on va déjà se dire, ça nous fait comprendre que c'est la possibilité que cette insatisfaction se réduise petit à petit. Et la quatrième noble vérité, c'est les chemins qui mènent à la cessation de la satisfaction, à la cessation de dukkha. Ça, c'est tous les enseignements donnés par le Bouddha en disant, voilà, pour que le dukkha cesse, il faut prendre soin de ça, réaliser ça, comprendre ça, et toutes ces techniques et toutes ces approches. C'est un peu comme un médecin, en fait, hein. Il y a une douleur, une maladie, un problème. Quelle est la cause? Est-ce que c'est possible de guérir? Et si oui, comment? En fait, c'est les quatre. Voilà, on l'appelait d'ailleurs le roi médecin, dans le sens où voilà, c'était vraiment une attitude de soin, en fait. Alors les causes, il y a plein, plein, plein d'enseignements qui vont prendre les causes à tous les niveaux. Mais au niveau les plus profonds, il va y avoir greed, hatred and delusion, donc l'avarice, la haine et l'illusion. Ça va être les causes fondamentales. Et ces causes-là ont une cause encore plus fondamentale qui est l'ignorance. C'est l'ignorance qui crée l'avarice, la haine et l'illusion. On a déjà vu dans d'autres retraites comment en fait l'ignorance va créer la sensation de savoir, parce qu'on ne sait pas qu'on est ignorant, et du coup on va avoir des interprétations à propos de tout, et ça va être notre vision du monde, notre cosmologie, notre... Et là-dedans, en fait, c'est truffé d'erreurs, mais on ne sait pas que c'est truffé d'erreurs. Et ça crée des illusions. Tout un tas de croyances qui nous permettent de fonctionner et naviguer dans ce monde, mais dont certaines sont dysfonctionnelles et du coup créent de la souffrance. Et donc, de sortir de cette ignorance, c'est le grand projet du Bouddha, quelque part. Alors, pour sortir de cette ignorance, il a dit, en fait, pour que cette transformation puisse se produire, il y a un chemin qui est fait de 8 sentiers. Le sentier octuple des nobles. Ça aussi, on l'a vu dans des retraites d'un jour à l'époque, donc je repasserai assez brièvement dessus. Mais sur ce sentier, donc il dit, en fait, il y a, pour sortir de l'ignorance, il y a ces 8 chemins, il y en a un, c'est la compréhension juste. Alors la compréhension juste, ça va être très important dans les retraites d'un jour qu'on va faire. Il y a différentes manières de comprendre ce que veut dire la compréhension juste. Et ici, cette approche que je tiens de cet enseignant Robert Béat et qui fait partie d'une certaine tradition, mais assez méconnue en fait, pour lui, la compréhension juste veut dire la compréhension qui ne crée pas de souffrance. C'est pas qu'elle est juste ultimement et que nous, on a une compréhension juste et que les autres comprennent, les autres dans leur compréhension ont tort. C'est pas juste dans le sens ontologique que ça c'est juste et le reste n'est pas juste, mais c'est juste quand sur telle situation ou sur tel vécu ou sur telle chose qui se produit, si j'ai tel regard et que ce regard permet de vivre moins de dukkha, moins d'insatisfaction et de créer moins de souffrance autour de moi, alors c'est une compréhension juste, sans devoir forcément discuter si elle est scientifiquement réelle, prouvable, et voilà, il ne s'engageait pas trop dans ces directions-là, en fait, le Bouddha. Il y a une manière de voir qu'on applique à une situation et qui libère, qui permet de lâcher prise, qui permet de laisser sortir l'amour. Ça, c'est une compréhension juste. Voilà. Et puis, après, il y avait la pensée juste. Bon, je ne vais pas les refaire toutes dans leur explication, mais la pensée juste. Et puis, après, ça, ces deux-là sont la compréhension et la pensée juste. Il y a 3 secteurs, si vous voulez, sur ces 8 sentiers. Il y en a le premier, compréhension juste et pensée juste, c'est on appelle ça la partie de la sagesse. Et puis, les 3 qui viennent après, et ça, c'est très important. Il disait donc toujours, pour arriver à une connaissance, pour arriver à une transformation et à une libération, il y a l'éthique. Et ça, souvent, on l'oublie en fait. Mais pour le Bouddha, l'éthique était aussi importante que la compréhension et que la méditation qui viendra après, vous le verrez. Et l'éthique, donc, il disait, l'action juste est un axe de libération, de le fait d'agir d'une façon juste, c'est-à-dire de nouveau d'une façon qui ne crée pas de souffrance, est un axe de libération aussi important que la compréhension juste. Et d'ailleurs, ces 8 points, en fait, vont ensemble et ne font qu'une seule histoire. Mais il faut que l'individu se transforme, c'est-à-dire qu'il y a une action juste, une parole juste et un moyen d'existence juste. Donc ce qu'on fait, en fait, ne doit pas créer de souffrance autour de nous et en nous. Ça fait partie de la transformation. Et puis après ça, il y avait l'effort juste et la pleine conscience juste et la méditation juste. Et donc vous voyez qu'en fait, il y a trois sur les 8 axes dont il faut prendre soin, il y en a trois qui concernent l'éthique. Et bien là, dans ces retraites-ci, ces 3 retraites d'un jour, on ne va pas du tout les aborder, ces 3 points. Parce qu'on ne peut pas aborder tout en même temps. Et c'est pour ça que je pense que c'est important, au début, en commençant notre exploration, qu'on garde quand même l'image globale de ce qu'on fait. On ne va pas s'occuper juste de la permanence. Pour le moment, on focalise sur cet endroit-là du tableau, mais à certains moments, il faudra dézoomer et aller à d'autres endroits du tableau, prendre soin de notre spiritualité à d'autres endroits. Et ces points d'éthique sont extrêmement importants, comme les 8 points, en fait, si on y réfléchit, sont importants et interdépendants. C'est-à-dire que dans la mesure où notre éthique ne se transforme pas, ou je veux dire au fur et à mesure de notre chemin spirituel, si on ne devient pas des personnes qui sont plus sensibles à la souffrance autour de nous et plus engagées et plus à essayer d'avoir une parole qui est juste, qui ne crée pas de souffrance, qui est dite au bon moment, avec des bonnes intentions, par exemple. Hein? Si on ne s'engage pas sur ces chemins, juste méditer, méditer, méditer et essayer de se libérer, se libérer, se libérer va être limité. Parce que le sujet méditant doit se transformer pour pouvoir voir et comprendre plus en profondeur. C'est quelque chose qui est oublié, ça, parfois. Certaines personnes vont penser que juste la méditation, juste le fait de quitter la pensée, le fait de revenir au moment présent, le fait d'arriver à une certaine connaissance intuitive de ces mondes intérieurs et tout ça, en fait, va équilibrer tout le reste. Et non, parce que ça va bloquer si le sujet ne se transforme pas. En fait, la transformation du sujet permet de voir différemment. Parce que la manière dont on est a un impact sur ce qu'on voit. Donc ça, c'est, on en revient, vous savez bien, j'aime beaucoup la physique et la physique quantique, on en revient au fait que le regard porté sur quelque chose a un impact sur cette chose. Donc qui on est quand on médite a un impact sur la méditation. Et quelqu'un qui crée énormément de souffrance autour de lui ne pourra jamais aller vraiment au plus profond de ce qu'est la méditation. Il va falloir que le sujet se transforme pour pouvoir voir différemment. Et les choses qui vont lui apparaître à ce moment-là seront autres. Donc c'est pour ça, c'est très sage en fait, ce sentier octuple des nobles. C'est très sage parce que c'est les 8 points sur lesquels on peut progresser. Et si parfois vous vous sentez bloqué en méditation, vous avez l'impression, là ça fait des mois, des années, ça arrive, des années où j'ai l'impression que je médite et franchement ça plafonne, ça ne s'approfondit pas, et bien peut-être que pour approfondir la méditation, il faut un peu plus d'engagement à l'extérieur. Et hop, la méditation va se débloquer. Parce que tout ça est interactif. Donc dans cette retraite, on va se concentrer sur 2 aspects, principalement sur 2 aspects en fait de ce sentier octuple des nobles. Le premier et le dernier en fait, qui sont la compréhension juste et la méditation juste. Et comme je le disais, ils sont tous interdépendants. Et très certainement, la compréhension juste et la méditation juste sont interdépendants dans ce sens où la méditation, c'est pas juste se poser dans le silence et être avec les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est une compréhension. Déjà, c'est une compréhension, hein. C'est une idée en fait qu'on a, la méditation, c'est être avec les choses telles qu'elles sont, être avec ce qui se déroule dans le moment présent sans rien y ajouter, sans n'ajouter aucune prolifération de l'esprit, sans n'ajouter aucun commentaire, sans développer en fait, juste percevoir. Hein, il y a cette idée de la méditation. qui est juste, qui est une compréhension qui est juste parce elle va permettre justement de diminuer la prolifération. Et on sait que souvent dans la prolifération, ça crée beaucoup de souffrance, hein, beaucoup d'insatisfaction, de réactivité, et qui ne permet pas de sentir de l'espace, de la simplicité, de la présence, d'être en contact, de se sentir en lien avec soi-même. Donc elle est très juste, cette compréhension, mais à un moment, elle va être limitante. Donc il va falloir une compréhension qui soit plus complexe. Et donc là, souvent, il y a une espèce de romantisation de la méditation et du chemin spirituel où ça devrait vraiment être simple, en fait. On entend ça parfois, hein, que les enseignements devraient être simples, les pratiques devraient être simples, tout devrait être en fait très clair, très simple, très accessible. Et si c'est compliqué, si c'est complexe, à ce moment-là, c'est qu'il y a un problème, peut-être quelque chose qui n'est pas bien compris. Il y a cette idée, mais en fait, c'est une idée romantique, mais ce n'est pas la réalité, parce que quand on voit par exemple les enseignements du Bouddha, c'est extrêmement complexe. C'est extrêmement philosophiquement réfléchi, philosophiquement très intelligent. Si c'était juste le moment présent, quitter la pensée, revenir au moment présent, et en pratiquant ça encore et encore, on en vient à une liberté de plus en plus ultime, il n'y aurait pas besoin de tous ces enseignements. Et il n'y aurait pas besoin de notamment la permanence, et la connaissance et la compréhension de la permanence. Donc, la compréhension, et c'est ce qu'on va voir ici, c'est comment on peut aller développer des compréhensions qui vont avoir un impact sur la profondeur de notre méditation, qui vont permettre de débloquer et de libérer des niveaux de méditation, des capacités d'accès à une profonde tranquillité. Donc je vais vous lire un extrait du Girimananda Sutra où le Bouddha en fait parle à Ananda qui en fait c'est son nom à ses disciples, à ses anciens disciples, et ça se traduit par félicité, donc ça, il s'appelle Félicité, c'est un beau nom, et il lui dit Et qu'est-ce, Ananda, que la perception de la permanence ? Je vais vous le lire une fois, et puis après ça, je le commenterai. Et qu'est-ce, Ananda, que la perception de la permanence ? En cela, un bhikkhu, c'est un moine. En cela, un bhikkhu s'étant rendu dans la forêt, au pied d'un arbre ou dans un local vide, considère ceci. La forme est impermanente, le ressenti est impermanent, la perception est impermanente, les constructions sont impermanentes, la conscience est impermanente. Il demeure ainsi à observer la permanence dans les cinq accumulations d'attachement. Voici, Ananda, ce qu'on appelle la perception de la permanence. Alors d'abord, peut-être avant de le lire, j'aurais pu prendre un petit temps à parler juste du mot impermanence, parce que ce n'est pas un mot qu'on utilise couramment dans le français. C'est un mot, en fait, qui dit bien ce qu'il dit, ça veut dire que les choses ne sont pas permanentes. Hein. Et là, on a un peu l'impression d'enfoncer une porte ouverte quand on dit ça. Parce qu'on a tous, c'est vraiment très facile pour nous de comprendre que rien n'est permanent. Hein, on peut le voir dans notre quotidien, dans toute notre vie, on peut voir que depuis le moment où on est né jusqu'à maintenant, en fait, tout ne fait que changer notre corps, notre compréhension du monde, les situations qu'on traverse, chaque moment de vie est un moment différent, chaque chose, on voit que les choses débutent, ont une durée et une fin. De façon générale, c'est très facile en fait. La permanence, c'est pour ça que je le disais dans la présentation écrite de ce cycle, c'est que pour moi, c'est un des concepts les plus accessibles du bouddhisme et en même temps les plus libérateurs. C'est pour ça que j'avais envie en fait de le partager avec vous, parce que je pense que s'il est bien compris et s'il est bien intégré à notre pratique, c'est-à-dire si on arrive à l'inviter dans notre regard, il nous permet énormément de lâcher prise. Vous verrez qu'en fait, il y a beaucoup, on va beaucoup travailler sous l'angle du lâcher prise en fait. Et le fait d'être conscient de l'impermanent permet de lâcher prise. Donc l'impermanence, tout le monde sait en fait. Tout le monde sait que nous ne sommes pas permanents, notre corps n'est pas permanent, notre vie n'est pas permanente, rien de ce à quoi on s'attache au final n'est permanent. Mais on vit quand même comme si les choses étaient permanentes. Je vois mon fils là, c'est là que c'est extraordinaire. Il a 15 ans, il est éternel. Il n'y a pas, absolument pas. Et déjà, hein, si on lui demandait, il se dit, ben oui, bien sûr, je sais qu'un jour je vais mourir. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il vit. Et on ne vit pas comme ça. On ne vit pas avec cette conscience de la finitude. Et la conscience de la permanence nous amène et nous invite à prendre conscience du fait que les choses ne durent pas. Parce que ça va nous permettre de lâcher prise. On le verra plus loin. En fait, on va le voir maintenant. On va explorer d'abord un peu ça et puis on va revenir au texte. Pourquoi est-ce que la conscience de l'impermanence libère? Je pense que c'est bien d'aller d'abord un petit peu vers là avant de revenir à ce texte. Donc, pourquoi est-ce que la conscience de la permanence libère? Ben, pardon. De nouveau, c'est quelque chose sur lequel je me suis déjà bien étendu ailleurs, et il y a aussi beaucoup d'enseignements qui sont disponibles à ce sujet, donc je ne vais pas y prendre trop de temps. Mais par exemple, hier, j'ai été chez l'orthodontiste avec mon fils, et puis après ça, on a été à la boulangerie ensemble, on s'est installé, il a pris un chocolat chaud, j'ai pris un café, et puis on a passé une petite demi-heure comme ça, on avait des discussions, c'était intéressant. Il y a des moments où il était sur son portable, et puis de nouveau, on avait des discussions. Et en fait, j'étais très conscient. C'est quelque chose, c'est une pratique depuis longtemps. En fait, j'essaye d'être conscient du fait que comme tout change, chaque moment est important. Et donc là, j'avais conscience de l'importance de ce moment parce que je sais que c'est un moment qui ne va pas se produire indéfiniment. Parce que déjà, même si 10 ans après, on se retrouve de nouveau, ou même dans 6 mois, on se retrouve là, et mon fils, il aura bien changé. Et chaque situation, en fait, est unique. Et j'avais cette sensation, en fait, de ce moment qui est unique et dont il faut vraiment profiter. Et en fait, la conscience de la finitude, la conscience du fait que ce moment n'a jamais existé, n'existera plus jamais, lui donne une importance et du coup, crée une nécessité de ne pas être perdu dans « qu'est-ce que je vais faire après ? Ah oui, j'ai encore du travail là-dessus. Ah bah tiens, il faudrait justement que je renvoie un email aux participants de la retraite d'un jour qui commence demain pour ceci, cela. » À ce moment-là, ces pensées-là n'ont pas de prise. Parce que je vois l'importance de ce moment. Je vois la beauté, je vois la nécessité d'être présent parce que ce moment, en fait, il n'est pas éternel. Il n'est pas acquis. Il est là maintenant, il est éphémère. Il est presque il est insaisissable. Et du coup, je veux le goûter vraiment. Et puis, effectivement, puis à un moment, il avait fini son chocolat chaud, j'avais fini mon café, et puis il dit, on y va. Ok, on y va. Et voilà, c'est fini. Et c'était bien. Et c'était bien parce que j'ai pu le vivre pleinement. Voilà, et c'est ça en fait qu'on voudrait avec tous les beaux moments, c'est ne pas les rater. Et pour ne pas les rater, de savoir qu'en fait ces moments-là, ils sont importants aussi. En fait, le fait qu'ils ne soient pas éternels leur donne une importance. Le fait de savoir qu'ils existent juste pour un temps, qu'ils sont éphémères, nous invite à vraiment en profiter pleinement. Et de profiter pleinement des beaux moments, ça peut être... Ça peut être infime, hein, ça peut être une douche, ça peut être... c'est vrai, hein, c'est pas une plaisanterie. Le fait de savoir qu'une douche, c'est à la fois un privilège, que c'est pas acquis, que dans 3 minutes, on est hors de la douche, qu'elle va finir, la douche, en fait. Et ben, du coup, de bien sentir l'eau chaude, ça nous permet de vivre un moment qui est agréable, qui a du sens. Et... aussi, ça permet déjà donc de vivre un moment agréable et qui a du sens, mais aussi que ne s'invitent pas dans ce moment des choses qui n'ont rien à y faire. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. Alors, on va être sous la douche et on va penser à autre chose. Ce qu'on doit cuisiner après, les courses qu'on doit faire, et puis, ou bien un problème qu'on a eu avec telle personne, ou comment est-ce qu'on va trouver la solution de ceci, ou nos projets futurs. Et en fait, on ne prend pas vraiment une douche. C'est-à-dire que notre corps prend une douche, mais notre esprit ne goûte pas la douche. On n'a pas le plaisir et le bonheur que peut amener une douche parce qu'on n'est pas dans la douche avec notre esprit. Et en fait, Si on n'y prend pas soin, on est toujours ailleurs avec notre esprit que là où on est vraiment. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que les choses qui ont le contenu émotionnel le plus compliqué, parce que c'est toujours les contenus, les problèmes attrapent plus et sont plus collants dans notre esprit que les choses qui vont bien. Et du coup, les problèmes vont tout le temps attirer notre esprit, vont tout le temps s'introduire dans tous les espaces de notre vie dans lesquels il y a une certaine disponibilité d'esprit. Donc, ce qui veut dire que quand notre esprit n'est pas complètement impliqué dans un film, dans un travail important ou dans un truc comme ça, dès qu'il y a un moment de disponibilité, hop, les problèmes habituels vont s'inviter. Et parfois, c'est même pas dans un moment de disponibilité, ça peut être dans un moment avec un ami qu'on ne voit pas souvent, mais on n'arrive pas vraiment à quitter nos problèmes. Ou bien on va dans une soirée où il y a de la musique et on aime danser et tout ça, mais on n'arrive pas vraiment à danser parce qu'on est toujours pris dans des situations ou des choses comme ça. Et au final, toutes les couleurs se mélangent parce que quand je suis en train de jouer avec mon fils, en fait, je pense au travail. Quand je suis au travail, je me dis que je devrais être plus avec la famille. Et puis quand je suis là, je pense à là. Et finalement, c'est comme si on prenait toutes les couleurs de la palette, qu'on mélangeait tout. Et ça uniformise notre expérience de notre journée. Parce que ça mélange tous les moments de notre journée. Et la conscience de la permanence, elle vient au service de la pleine conscience. Ici, elle nous permet plus d'être présent dans les moments qu'on vit. Mais il y a des moments qui ne sont pas sympas non plus, hein, des moments qui sont plus difficiles, des moments où on a des émotions difficiles, des moments où il y a du conflit, des moments où il y a des peurs, on vit aussi énormément de choses difficiles. Et là aussi, la conscience de l'impermanence, elle est utile dans le sens où on peut savoir que ça ne dure pas, parce que rien ne dure. Alors quand il y a quelque chose de super, il faut en profiter parce que ça ne va pas durer. Et ça vaut pour la méditation, hein. Quand vous avez un beau moment de méditation, où vraiment c'est paisible, ben profitez-en bien parce que ça ne va pas durer. La distraction, elle va revenir. Alors c'est juste, c'est la nature, on le verra, c'est la nature même de la conscience d'être impermanente. Donc profitez-en bien, ça ne va pas durer. Et quand il y a des moments plus difficiles, c'est pas la peine de se sentir misérable, ça va pas durer. Donc ça allège en fait des moments difficiles et ça magnifie, ça redonne de la brillance à la beauté. Donc voilà, notamment pour le moment en tout cas, on va rester avec ça, pourquoi ça vaut le coup en fait d'amener plus dans notre regard quotidien la conscience de la permanence. Et donc le Bouddha en parle, le Bouddha l'enseigne. Ça fait partie de ce qu'il appelle les trois qualités de la vie, la permanence, dukkha, la satisfaction, et anatta, le non-soi. Et qu'est-ce, Ananda, que la perception de la permanence? Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de perception de la permanence. Percevoir la permanence. C'est très intéressant parce que on comprend la permanence. Mais percevoir la permanence, ce n'est pas la même chose que comprendre, ce n'est pas la même chose que savoir que les choses sont impermanentes. Ça, on l'a bien dit, c'est facile et on le sait tous. Mais c'est percevoir la permanence dont il parle. Qu'est-ce que la perception de la permanence? En cela, un bhikkhu s'étant rendu dans la forêt, au pied d'un arbre ou dans un local vide, là, ils vont dans un arbre ou dans un local vide pour méditer. Le moine va aller, quand un moine va sous son arbre pour méditer, il considère ceci. Alors le mot considère aussi est intéressant. Parce que dans considérer, il y a déjà, ici on n'est pas juste à une méditation sur la respiration. Point barre. Il y ajoute quelque chose. Il y ajoute une considération. Il considère ceci. La forme est impermanente. Le corps, par exemple, est impermanent. Donc il médite. Il sent les sensations physiques et il sait au moment où il sent les sensations physiques, il sent que le corps, en fait, est impermanent. C'est-à-dire qu'il ramène une compréhension dans sa méditation. Tout le temps dans les enseignements du Bouddha, il y a ça. Il y a besoin de compréhension dans la méditation. Il y a besoin de méditer avec des compréhensions. Ici, hein, parfois ça peut être l'interdépendance. Il y a beaucoup de méditations dans laquelle on ramène la compréhension de l'interdépendance. Et ça change ce qu'on vit en fait. C'est ça qui est extraordinaire. On ramène une compréhension dans notre méditation et ça change la manière dont on fait l'expérience de la chose sur laquelle on médite ou du moment. Donc il considère ceci, la forme est impermanente. Le ressenti est impermanent. Tout ce qui va être ressenti, tout les émotions, tout les interprétations, tout ce qui va être en fait de l'univers intérieur est impermanent. Et effectivement, ça c'est très facile à voir parce que ça va et ça vient. Le ressenti est impermanent. La perception est impermanente. Mais le fait même de percevoir change, est impermanent. Un moment on perçoit ça, le moment d'après on perçoit autre chose. La perception est impermanente. Les constructions sont impermanentes. Alors construction, dans le bouddhisme, c'est toute la prolifération mentale, toutes les idées qu'on peut avoir à propos des choses. Eh bien, ces idées-là, elles sont impermanentes déjà pour deux raisons. Une, c'est que depuis qu'on est petit, elles ont déjà vachement bien changé, nos idées. La manière dont notre vision du monde, en fait, n'est plus du tout la même. Donc les constructions, ces constructions qu'on applique, qu'on surimpose sur le monde pour se l'expliquer, changent. Et puis aussi, les constructions sont impermanentes parce que quand on est dans une méditation, on passe d'une construction à l'autre tout le temps, c'est-à-dire d'une idée à l'autre tout le temps. Donc en fait, elles sont complètement impermanentes. La conscience est impermanente. Alors là, pour le moment, ça c'est un grand thème de réflexion. C'est un grand thème de débat dans les traditions aussi. Le mot conscience est très très compliqué. Il peut vouloir dire beaucoup de choses et plein de gens et d'enseignants l'utilisent différemment. Ici, on pourrait simplement se dire que d'après le Bouddha, la possibilité d'être 24 heures sur 24 conscient tout le temps. Il y a des moments où on est conscient, il y a des moments où on n'est pas conscient. Point barre. Et ça, franchement, entendez-le bien, et ça fait ouf. Parce que en méditation, on n'y arrive pas à être conscient tout le temps. Il y a des moments où on se barre dans la distraction et puis il y a des moments où ça revient. Eh bien, c'est ça que ça veut dire. La conscience est impermanente. C'est normal qu'elle aille et qu'elle vienne. Et ça, c'est de le savoir, ça relaxe en fait. Et du coup, quand il y a un moment de conscience dans la méditation, c'est super, profitez-en, parce que c'est impermanent. Ça va partir, c'est normal que ça parte. Il demeure ainsi à observer l'impermanence dans les cinq accumulations d'attachement. Les cinq accumulations d'attachement, c'est-à-dire, là en fait, quand le Bouddha nous parle de donc la forme, le ressenti, la perception, les constructions et la conscience, c'est un peu la totalité de ce qu'un humain peut expérimenter dans sa vie. C'est un peu comme une liste exhaustive de tout ce qui compose notre expérience. Forme, ressenti, perception, conscience. C'est la totalité. Il n'y a rien qui existe dans notre expérience en dehors de ça. C'est à l'intérieur de ça que nous, on s'attache. On s'attache à la forme, c'est-à-dire on s'attache au corps. Alors ça peut être très basique, où on s'attache à la forme de la jeunesse du corps et que du coup, vieillir devient difficile. Et qu'on se regarde dans le miroir et on fait des ouf. Hein, et parce que, voilà, donc là, il y a un attachement en fait à la forme que le corps avait et puis la permanence, malheureusement, fait que le corps n'est plus comme il était et du coup, on en souffre. Parce qu'il y a un attachement à la forme du corps, ça peut être aussi, poussé à l'extrême, là, un attachement au corps simplement, qui du coup crée une peur de la mort. D'ailleurs, on verra, parce qu'il pousse loin le projet, le Bouddha. Vous verrez, c'est... Donc, ça parle aussi simplement d'un attachement au corps et de comment se libérer de l'attachement au corps. Donc, le bhikkhu demeure ainsi à observer l'impermanence des cinq accumulations d'attachement. En fait, il prend le temps, dans ses méditations, de ressentir, de voir, de comprendre, d'intégrer que rien de tout ce qui fait son expérience d'être vivant ne va durer. En gros, c'est ça son projet au moins. Rien de tout ce qui fait, de tout ce qui est perceptible et qui fait sa sensation d'être vivant ne va durer. Il y a d'autres méditations, par exemple, où les moines vont imaginer leur corps enterré et qui se décompose peu à peu. Il y a des méditations très très détaillées sur toute l'anatomie et ce qui se fait manger par les vers en premier, et puis ce qui se fait manger par les vers après. Et puis, en fait, tout ce qui se passe, en fait, tout, et ça, c'est extraordinaire encore, parce que là, on voit que c'est l'imagination maintenant qui se mêle de la méditation. On est loin du moment présent, là, vous voyez. Et là, on crée, en fait, un univers pour apprendre, pour nous aider à nous rendre compte. Et il y a des méditations, elles sont très longues, ces méditations, très détaillées sur la décomposition du corps. Et les moines qui les connaissent par cœur, ces méditations, et de temps en temps, ils se font, je vais me faire une petite décomposition du corps, là. Hein, et ils s'installent pour méditer. Et ils voient leur corps complètement se désintégrer et revenir jusqu'à la terre. Et là, en fait, de manière à se libérer de l'attachement. On verra et on va essayer de comprendre pourquoi se libérer de l'attachement, quel est l'intérêt. Hein, et ça peut poser question aussi. Donc c'est ce qu'on va faire dans nos méditations, nous, ce qu'on va faire, on va essayer de contempler l'impermanence. C'est, comme je le disais, ça veut dire qu'il y a une partie de compréhension qui va être induite dans notre méditation. Encore une fois, c'est très intéressant parce que j'ai l'impression que ce projet suit le même projet que le projet scientifique, quelque part. Alors je ne vais pas me lancer trop loin là-dedans, mais en fait... Pendant très longtemps, la science a pensé que juste par l'observation des choses telles qu'elles sont, on allait pouvoir dériver des règles et comprendre la totalité. Mais depuis Galilée, en fait, la science, elle a changé. Depuis Galilée, en fait, Galilée a amené des expériences de pensée et qui se sont déclinées beaucoup plus loin après avec Einstein et puis qui sont arrivées jusqu'à la physique quantique, dans lequel, en fait, en mettant en scène des compréhensions, on peut découvrir des lois qui sont inaccessibles à l'observation. Comme la première loi qui a été découverte de cette manière-là, c'est la loi de la chute des corps, dans laquelle Galilée a imaginé tout un système. Il disait, il y avait une règle, je crois, depuis Aristote, qui disait que un corps lourd tombe plus vite qu'un corps léger. Et du coup, je pense que c'était à cause de l'attraction. Et Galilée disait, mais en fait, c'est pas logique. Et quand c'est pas logique, et ça c'est pareil en spiritualité, quand c'est pas logique, il y a un problème, et c'est génial parce que ça veut dire qu'on va trouver l'étape suivante. Et c'est ce qu'il a fait Galilée. Il a dit, mais non, mais c'est pas possible le truc. Si un corps lourd tombe plus vite qu'un corps léger, à ce moment-là, si on attache un corps léger avec un corps lourd, ben les deux ensemble font un corps encore plus lourd. Donc il devrait tomber plus vite. Ok. Mais ça pose un problème, parce que le corps léger, lui, comme il tombe moins vite que le corps lourd, la corde va se tendre, et il va freiner la chute du corps lourd. Donc en fait, on a une contradiction dans cette loi. Si cette loi a une contradiction, du coup, ça veut dire qu'elle est fausse. Et c'est comme ça que Galilée a découvert en fait que les corps, qu'ils soient légers ou lourds, tombent à la même vitesse dans le vide qui n'avait même pas encore été prouvé à cette époque-là, donc on n'a pas pu faire l'expérience. Et c'est une expérience qui a été faite, je crois, sur Apollo 11 ou Apollo 13, et vous pouvez la voir sur YouTube si vous voulez, les images sont... difficile à voir, mais on voit quand même, où l'astronaute prend une plume et un marteau, je crois, et il les lâche sur la Lune et il tombe à la même vitesse. Donc Galilée a découvert, par la logique et la compréhension, des lois qui étaient inaccessibles à l'observation. Et depuis, la science est consciente qu'on ne peut pas juste fier à l'observation pour arriver à découvrir la nature de la réalité. Et ici, pareil, c'est un peu quelque chose qu'on va implémenter dans nos méditations. Ce n'est pas juste le moment présent à travers les cinq sens. On va observer le changement. Et le changement, ce n'est pas quelque chose qui est perceptible avec juste les cinq sens. Il faut amener aussi la mémoire. Parce que le temps n'est pas perceptible par les cinq sens. Le temps est un concept. Le temps est une idée. Le temps, on ne peut pas le percevoir ni avec les yeux, ni avec les oreilles, ni avec la bouche, ni avec le toucher. C'est une idée, le temps. Et on va observer le changement, c'est-à-dire le passage du temps, dans notre méditation. Alors, pour faire ça, on va s'installer, et notre objet de méditation, on va prendre la respiration comme base, à moins que vous préfériez, vous pouvez aussi prendre les sons. Ou, moi, je vais les guider avec la méditation, avec la respiration. Et puis, notre intention, et l'intention est cruciale, toujours en méditation, notre intention va être de se rendre compte des choses qui arrivent dans notre conscience et puis qui partent de notre conscience. On va se rendre compte du fait que une voiture passe, le son d'une voiture passe et puis disparaît. La sensation d'une jambe est présente et puis elle n'est plus présente. Une douleur dans le dos se présente et puis après ça, un moment, elle n'est plus dans notre conscience. Le moment d'après, c'est le son du feu. Le moment d'après, c'est de nouveau retour à la respiration. Le moment d'après, peut-être moi, je vais dire quelque chose et votre conscience sera avec ma voix. Et ainsi, notre méditation sur la demi-heure, trois quarts d'heure qu'elle va faire, ne sera que changement, parce que c'est toujours ce qu'elle est, et on va rester conscient, on va essayer en fait de se placer en témoin du changement, de manière à l'intégrer intuitivement et à pouvoir vivre plus avec cette conscience de l'impermanence. Et ça, c'est cette manière de méditer que je vais guider maintenant. Merci pour votre écoute.
Et un petit mot de la fin. Soutenu par l'association Dharma Nature, je fais le choix de proposer ces discours de façon libre et non commerciale. Si vous appréciez les écouter, s'ils vous sont utiles, pensez à nous soutenir de temps en temps avec un don que vous pouvez envoyer depuis le site www.dharmanature.org. Sachez qu'aucune somme n'est trop petite, car votre démarche exprime votre considération et ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle journée et une belle pratique.